Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Monseigneur Marc Ayé, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission mensuelle, émission diffusée sur Radio Lapourdi et Radio Présence, où nous abordons de nombreux sujets se rapportant à l'Église et à notre diocèse. On va commencer par le sujet qui a principalement occupé l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes la semaine dernière, à savoir les abus sexuels dans l'Église. Lors de cette Assemblée des évêques qui s'est déroulée du 3 au 8 novembre, ont été révélées plusieurs affaires d'abus sexuels concernant des évêques, notamment l'évêque émérite de Bordeaux, Monseigneur Ricard. Alors, quelle est votre réaction face à ces révélations ?
Écoutez, c'est sûr que cette assemblée plénière a été un peu pesante. Hein, le climat était quand même un peu douloureux pour tout le monde. On se rappelle déjà l'assemblée plénière de novembre 2021, où on était sous le coup de la réception du rapport de la CIAS et tout le remue-ménage qu'il avait accompagné dans les médias, en particulier catholiques. On avait été alerté quelques semaines avant, je pense, ou quelques jours avant, parce que l'on a appelé l'affaire Sentier, qui déjà nous avait quand même profondément troublés, parce que il faut savoir que beaucoup disent les évêques ne nous disent rien, les évêques ne sont pas. Mais nous, on n'était pas plus au courant que le grand public.
Donc, Mgr Sentier, l'évêque de Créteil.
Voilà, l'ancien évêque de Créteil, qui avait été évêque de Luçon auparavant, et qui était un prêtre du diocèse de Coutances, qui avait été 20 ans père spirituel au séminaire de Caen, donc le séminaire de la Normandie, et qui avait surtout fondé la communauté réjouitoire et l'école de la foi, dont il était le directeur au moment des faits qui lui ont été reprochés par des victimes, bien longtemps après, puisque ça date d'il y a, semble-t-il, 3 ans. Mais nous, on n'était pas au courant. Il faut que vous sachiez que les évêques ne sont pas plus tenus au courant que les...
Voilà, mais d'ailleurs, c'est peut-être ça le problème.
Alors,
aussi.
Alors, peut-être aussi, mais je pense qu'il faudra nuancer tout ça.
Oui, on va en parler de la transparence,
voilà,
effectivement.
Tout à fait.
Déjà sur l'affaire...
Pour ce qui est du cardinal Ricard, c'est évidemment, on n'en savait rien. Moi, j'entrais dans l'hémicycle avec 5 minutes de retard, c'était le dimanche après-midi. On devait partir en carrefour sur les ministères laïcs qui n'ont pas été honorés. Et je sentais une atmosphère pesante. Il y avait un silence de plomb. Donc je rentre pour me faufiler à ma place. Et puis je dis à un évêque, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, Ricard, tu vas voir, Ricard, écoute, écoute. Et c'était le cardinal Aveline en tant que métropolitain de la province où se trouvait M. Ricard à ce moment-là, surtout qu'il était d'abord de Marseille, hein, mais qui s'était retiré à Digne depuis 2 ans, et qui faisait un message dans lequel il se confessait d'une certaine manière de ce qui s'était passé lorsqu'il était curé il y a 35 ans.
Alors c'est vrai que vous avez donc fait un communiqué pour, dedans, donc dans les grandes lignes, vous nous expliquez que l'Église est sainte, même si elle est faite de pécheurs. Ce qui est peut-être plus dur, en fait, à entendre, à comprendre, c'est la contradiction qu'il peut y avoir dans le discours entre le péché commis et puis parfois la parole. Mgr Ricard était président des évêques de France et il avait lui-même dit qu'il fallait lutter contre les abus. Alors du coup, voilà,
c'est alors, ça. C'est vrai que c'est une affaire qui a eu lieu lorsqu'il était curé à Marseille, qu'évidemment personne ne connaissait. Par définition, vous savez, j'étais d'autant plus touché, comme d'autres évêques, que j'étais ordonné évêque par lui, hein, ici dans cette cathédrale, que je l'ai eu comme archevêque métropolitain pendant au moins 12 ans, depuis que je suis à Bayonne, et qu'on a toujours travaillé en bonne intelligence. Bon. Qu'il a été lui-même président de la Conférence des évêques de France, au moment où le chantier de la lutte contre la pédophilie a été lancé, donc il en a été le principal artisan, qu'il était membre de la Congrégation prédorine de la foi, qu'il a grandi dans les échelons et de la hiérarchie depuis qu'il a été vicaire général à Marseille, évêque auxiliaire à Grenoble et Vienne, puis archevêque de Montpellier, puis archevêque de Bordeaux. Donc c'est sûr que ça nous a étonnés. Après, il y a évidemment un émoi qui est bien logique quand on apprend une nouvelle comme celle-là, d'un évêque qu'on a côtoyé, hein, avec lequel on a eu des bonnes relations. Et c'est vrai qu'en plus, à sa place dans la Conférence évêque de France, ça a été un choc d'autant plus important pour nous, et je pense bien pour le grand public, parce qu'évidemment ça a été ensuite répandu comme une traînée de poudre, hein, dans les médias et les réseaux sociaux. Voilà, c'est regrettable. Moi, j'ai, dans mon message, j'ai insisté à la fois sur, comme nous l'avons dit dans le message adressé par les évêques à la fin de la conférence d'évêques, à la fin de l'assemblée plénière, bouleversé et résolu. Donc, il veut dire que nous sommes effectivement bouleversés par ces scandales qui éclatent, qui touchent les évêques, même s'ils sont émérites, quand ils étaient prêtres. Mais bon, ça reste pour nous une épine dans la chair. Hein. Mais résolu aussi, parce qu'il ne faudrait pas croire, comme on l'a parfois entendu dans les mois bien légitimes des médias, que les évêques ne font rien et ne font pas avancer la situation. Chacun dans son diocèse peut rendre compte de ce qu'il fait. Moi, je peux dire que nous avons une déléguée épiscopale à la protection des mineurs et des personnes vulnérables, que nous avons renforcé et renouvelé d'ailleurs la cellule d'écoute, que je suis en train de promulguer une charte de protection des mineurs et des personnes vulnérables. Donc il y a un certain nombre de choses qui se font, hein, et des sessions de formation. Je viens de signer un contrat de partenariat avec le diocèse de Paris qui offre une formation à la prévention de la pédophilie par le net. Donc on signe cette convention pour permettre à tous les diocésains qui le voudront et qui devront le faire de pouvoir s'informer en trois modules d'une heure et demie. Donc ce sera quand même... Il y a des choses qui se font, beaucoup de choses qui se font.
Alors justement, dans les réponses à apporter à cette crise, certains se demandent, même si ce n'est pas structurel, est-ce que le prêtre serait trop sacralisé et que cela entretiendrait des abus? Comment est-ce que vous voyez les choses?
Alors ça, je ne vois pas du tout ça comme ça, évidemment. Comme j'ai essayé de le dire aussi dans mon message, il faut aussi qu'on ait un regard de foi. Que l'Église, encore une fois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, soit sainte, elle n'est pas sainte parce qu'elle est composée de saints, même si elle est composée aussi de saints. Pas seulement les saints du ciel qui sont canonisés et qui sont béatifiés à l'appel, comme on le sait, ces dernières décennies, mais aussi ceux que le pape François appelle les saints de la porte d'à côté. Nous côtoyons tous les jours des saints, et évidemment qui font moins de bruit et qui n'intéressent pas les médias non plus, faut quand même le reconnaître. Mais il faut qu'on ait un regard de foi aussi. L'Église est sainte parce qu'elle a le moyen de sanctifier les pécheurs que nous sommes. Et le Christ, s'il avait voulu nommer à la tête de son Église des saints, il s'y serait pris autrement. Et s'il avait voulu soumettre l'efficacité et la crédibilité même du ministère sacerdotal à la sainteté du ministre, il l'aurait fait autrement. Vous savez que c'est une hérésie qui s'appelle le donatisme, qui a été combattue par un grand père de l'Église qui s'appelle Saint Augustin, et ça a été ensuite sanctionné par un concile. Nous sommes tous des pécheurs, et c'est pas un scoop. Et c'est facile de désigner et de condamner les autres avec un doigt sale. Moi, je ne juge pas. Je suis consterné. Je suis bouleversé de voir que le péché peut devenir cause de scandale et donc faire tomber les petits. C'est bien ce que Jésus dit. Malheureux celui par qui les scandales arrivent. Mais Jésus ajoute aussi, il est inévitable que les scandales arrivent. Et je notais que c'est au moment où il y avait ces révélations que nous entendions au cours de la messe cette parole de l'Évangile. Et comme quoi cette parole est vivante et vient aussi nous éclairer et peut-être nous encourager, que non seulement Jésus condamne les scandales, en particulier des petits qui croient en lui, et on est en plein dedans, et avec une rare sévérité, mais il ajoute aussitôt, si ton frère a péché, fais-lui de vifs reproches, mais s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche sept fois le jour et que sept fois le jour il se repent, pardonne-lui sept fois. Et il ajoute aussitôt, l'évangéliste, cette prière des apôtres qui disent, face à ce qui paraît impossible à entendre, augmente en nous la foi. Je crois qu'il faut que nous ayons un regard de foi. Moi, je crois en Jésus-Christ Sauveur, je crois en l'Église, qui est sainte, même si elle n'est, qui est sans péché, même si elle n'est pas sans pécheur. Je crois qu'il y a une rédemption possible, je crois qu'il y a une rémission, même s'il faut que la justice s'exerce, et en particulier qu'il y ait des peines proportionnées au mal que l'on fait pour réparer, mais aussi amender le coupable. Rappelez-vous que la peine dans l'Église est toujours médicinale. Elle a trois motifs profonds. Le premier, c'est le rétablissement de la justice. Donc c'est d'abord la victime qui doit être reconnue dans sa souffrance et pour qui on doit donner des moyens de réparer le mal qui lui a été fait. Le deuxième, c'est l'amendement du coupable. Il ne faut pas oublier que le coupable est appelé à s'amender. Nous, nous croyons d'une rédemption éternelle. Et comme je puis le dire à des prêtres qui ont été coupables de choses graves, mettez-vous face à votre destinée éternelle. Et pensez que cette peine, elle est appelée à vous aider, à vous amender, à vous convertir et à réparer le mal que vous avez fait. Et puis aussi, réparer le scandale. Et pas forcément ajouter le scandale au scandale.
Alors justement, sur la question du pardon, de la miséricorde, Monseigneur de Moulin-Beaufort a évoqué le fait que peut-être on ne faisait pas assez confiance au peuple de Dieu pour pardonner. Est-ce que ce n'est pas là qu'il y a aussi un petit problème de communication, de transparence? En même temps, je sais qu'il ne faut pas non plus tout étaler. Il faut doser entre la transparence et l'étalage qui peut être malsain. Mais le peuple de Dieu a droit de savoir aussi.
Bien sûr. Mais c'est une affaire de discernement. Le peuple de Dieu, j'en fais partie du peuple de Dieu. En l'occurrence, arrêtons de dire, il y a les évêques d'un côté, il y a le peuple de Dieu de l'autre. Le Concile nous a bien expliqué que le peuple de Dieu, c'est l'ensemble des membres de l'Église, de l'évêque au dernier des fidèles. Moi, je fais partie du peuple de Dieu, autant que les fidèles. Pas plus, pas moins. Donc cette information, elle est nécessaire, mais elle doit être soumise à un discernement.
Et donc pour
la vertu du discernement,
c'est
la prudence.
Vous auriez voulu le savoir ?
Est-ce que j'avais besoin de le savoir ? Est-ce que j'ai besoin de tout savoir ? Pas forcément de tout savoir. Il se trouve qu'aujourd'hui, le problème, si vous voulez, c'est le problème de la communication qui n'est pas celle des époques précédentes. C'est que tout se sait très vite. Dès qu'il y a une fuite, tout de suite, c'est répandu. Et le problème, c'est que l'information n'est pas forcément donnée comme il faut. Et elle peut être amplifiée ou infirmée parce qu'on n'a pas tous les éléments. Ce qui montre bien qu'il y a un endroit, certainement, dans la communication qui a manqué, qui a dysfonctionné. Je n'ose pas le dire à l'antenne, mais je pense que pour ce qui est de l'affaire Sentier, le dysfonctionnement vient pas forcément de l'Église de France. Voilà, j'en dis pas plus. Mais il se trouve qu'il y a eu des communications qui auraient dû être faites par les personnes qui sont habilitées à le faire. L'évêque de Créteil, lui, pour tout vous dire, quand il a été nommé évêque de Créteil, il n'a pas été informé.
Donc Monseigneur Blanchet.
Voilà, il n'a pas été informé de ce qui se passait concernant son prédécesseur.
Là, c'était peut-être problématique.
Par le nonce apostolique. Mmh. Bon, et ensuite, c'est par le semble-t-il, parce que autant que je puisse le dire, c'est par le président de la Conférence des évêques de France, qui n'est pas forcément habilité en cette matière pour transmettre l'information, qui a eu à l'informer. Et lui s'est trouvé comme ça, dans une situation où il fallait qu'il empêche Monsieur Sentier de venir dans son diocèse, et il avait ses prêtres qui lui reprochaient d'être dur avec son prédécesseur parce qu'il ne savait rien. Parce que le prédécesseur avait annoncé lui-même sa démission, alors ça ne se fait pas, et qu'il n'avait pas dit exactement pourquoi il partait. Mmh.
Donc
tout ça
voit,
était un
complexe.
Ensemble de malentendus, de quiproquos, qui, les fuites au Félix Culpa, comme on dit, au bien de notre faute, qui nous avait lu un tel rédempteur, comme dit saint Augustin à propos du péché originel. Je ne sais pas où se trouve la faute, mais en tout cas, après, il faut rattraper les morceaux, et ça devient beaucoup plus compliqué.
Alors, est-ce que suite à cela, des décisions ont été prises à l'Assemblée plénière ?
Voilà, c'est ça qui est important. D'abord, il y a des décisions qui ont déjà été prises et qui n'ont pas été révoquées et sur lesquelles on travaille. Depuis la dernière Assemblée plénière de novembre, nous avons constitué 9 groupes de travail pour répondre aux recommandations du rapport de la CIAS, qui sont pilotés par des laïcs qui font partie de nos églises particulières, sont engagés dans l'église, mais qui ont aussi un certain professionnalisme dans un certain nombre de domaines. Et nous avons pu rencontrer les pilotes avec un membre de chaque groupe, les accompagnants de ces groupes de travail au cours de l'Assemblée plénière, avec un travail très intéressant pendant toute une matinée. On était répartis par groupe de travail et on s'est trouvé avec des gens extrêmement compétents, des laïcs qui prennent vraiment à cœur leur participation à cette grande réparation, cette grande restructuration aussi, et ces résolutions que nous avons prises et qui aiment l'Église et avec qui on a pu co-construire quelque chose qui va aboutir à la prochaine Assemblée plénière. Mais tout ne peut pas se faire en un jour. Voyez ? Après, il y a une affaire qui démarre, on dit « voilà, ils font rien ». Mais vous imaginez bien que c'est tellement compliqué. Ça met en jeu tellement de personnes, tellement de souffrances et tellement de fonctionnement aussi dans nos diocèses qu'il faut du temps. Après, on a pris des résolutions aussi par rapport à cette affaire Sentier et plus particulièrement par rapport à la communication et aux rouages qui ont pu dysfonctionner et conduire à ce nouveau scandale. Donc nous avons d'abord créé un conseil de suivi d'un motu proprio qui s'appelle en latin « Vos estis lux mundi »,« Vous êtes la lumière du monde », qui est du pape François, pour justement le problème des évêques qui seraient mis en cause dans des cas de pédocriminalité, ou bien parce qu'eux-mêmes auraient été cause d'agressions sexuelles, quand ils étaient prêtres ou quand ils étaient évêques, je n'en sais rien. Enfin, en tout cas, en l'occurrence, pour l'instant, c'est plutôt quand ils étaient prêtres. Et puis, ou parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour dénoncer ou pour mettre un prêtre hors d'état de nuire. Donc, ce motu proprio qui nous donne un centre on a créé un comité de suivi qui sera composé pas seulement d'évêques, mais aussi de laïcs, donc pris dans le peuple de Dieu, qui nous permettront davantage d'accompagner les procédures quand il s'agit d'un évêque qui est mis en cause. Voilà. Et ensuite, on a demandé une amélioration des procédures avec le Saint-Siège, là où peut-être il y a un petit dysfonctionnement. C'est pour ça que le président de l'Assemblée, avec ses vice-présidents, et une petite délégation d'évêques qui sont plus partie prenante de toutes ces questions au sein de notre conférence, iront en décembre rencontrer les dicastères, et peut-être le pape, pour essayer d'améliorer ces procédures. Et enfin, on a voté aussi un renforcement de nos pratiques concernant la distinction des trois étapes d'une enquête canonique, la recherche de vraisemblance, l'enquête préalable, l'instruction. Nous sommes soumis, comme en droit civil, à une certaine confidentialité tant que les choses ne sont pas établies. Et pour établir sur un témoignage une vraisemblance de faute, il faut déjà un premier temps. Ensuite, on fait ce qu'on appelle une enquête préalable. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle un procès, s'il y a lieu.
Même si la personne a avoué.
Alors, si la personne a avoué, mais encore faut-il bien préciser de quelle manière ça s'est passé. Parce que l'aveu est une chose, mais les circonstances...
On voit qu'il peut y avoir d'autres victimes.
Bien sûr, et d'une. Et puis les circonstances de la faute peuvent être différentes. Là, par exemple, le pont sur sentier, c'est utiliser des sacrements à des fins sexuelles. Donc ça ajoute une gravité à l'agression sexuelle proprement dite, qui est déjà extrêmement grave. Mais le fait d'utiliser les sacrements, comme la confession, pour des fins d'ordre sexuel, donne aussi un caractère sacrilège aux actes qui évidemment, supposent une autre peine et un autre... Donc l'aveu ne suffit pas.
Prochain rendez-vous, ce sera à la prochaine assemblée plénière.
Voilà, prochaine assemblée plénière, qui sera celle de mars, fin mars 2023.
Merci beaucoup, Monseigneur Ayer.
Radio La Pourdire à Tia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous reprenons avec vous, Monseigneur Ayer, les sujets abordés à l'Assemblée plénière des évêques qui a eu lieu du 3 au 8 novembre à Lourdes, notamment le motu proprio traditionis custodes, promulgué il y a un an par le pape François. Alors ce texte qui réduit assez fortement les conditions de célébration de la messe dite de forme extraordinaire. Alors maintenant, on utilise un autre terme.
L'ancien ordo.
Qu'est-ce qui est ressorti des différents témoignages que vous avez pu avoir, des différents diocèses, sur l'application de ce motu proprio?
Alors, si vous voulez, manifestement, le président de la Conférence évêque de France avait préféré que nous abordions cette question en carrefour de 7 à 8 évêques sur des questions qui avaient été proposées, comme par exemple l'écoute des fidèles qui sont attachés au Vetus Ordo, et des communautés qui se sont rassemblées autour du Vetus Ordo dans nos diocèses. Ça peut être aussi l'application du décret que le pape a donné à la Fraternité Saint-Pierre en février dernier, qui déroge à la loi qu'il a édictée dans son motu proprio Traditionis Custodes en juillet 2021. Il y avait des questions comme ça. Les discussions des rituels, de la confirmation, du baptême, etc. Bon. Donc différents thèmes, et nous étions répartis par choix, volontaire, dans tel ou tel groupe. Et on n'a pas eu de compte-rendu. Donc c'est difficile de vous dire exactement qu'est-ce qu'il en est ressorti de ces, euh, de ces groupes. Moi, je peux seulement vous dire le groupe dans lequel j'ai été, donc sur l'écoute des communautés qui sont attachées au Vitus Sordo. Bon, j'étais avec 7 ou 8 autres évêques. Il y avait l'évêque de Nanterre, l'évêque de Laval, l'évêque de Nîmes, Monsieur Brouvet, l'évêque de Limoges, l'évêque de Clermont-Ferrand, Monsieur Calixte, l'archevêque de Lyon, Monseigneur de Germay. Il y avait l'évêque d'Agen, Monsieur Herbreteau, etc. Ce qui ressort pour moi de toutes ces partages d'expériences, finalement, et de discussions autour de cette question, et que j'avais entendu aussi de manière plus générale, parce qu'on parle entre nous, forcément, et vous savez qu'une bonne partie de la conférence de l'Assemblée plénière se passe dans les coulisses, si je puis dire, c'est-à-dire dans les moments de pause, où on prend un café ensemble, donc on discute ensemble. Donc ça, c'est quantité de moments où on parle à bâton rompu de beaucoup de questions. Alors évidemment, on a été très, très occupés par la question des scandales, hélas, mais on a pu parler aussi d'autres sujets. Et ce que je sens d'une manière assez générale, même s'il y a forcément des exceptions, c'est qu'il y a beaucoup de paix pour aborder la question chez les évêques. Les évêques ne sont pas prêts à ranimer une guerre liturgique. Quand il s'agit d'évêques comme moi qui sont étiquetés un peu, d'ailleurs les gens ne savent pas très bien ce que ça veut dire parce qu'on manque toujours un peu d'informations, mais ce n'est pas grave, tradis parce que je viens de la communauté Saint-Martin et parce que j'ai ordonné les prêtres d'Afrique des Saint-Pierre grâce au décret, hein, je n'aurais pas pu le faire sans, mais que ce soit des évêques qui n'ont pas du tout cette sensibilité-là, je sens une manière d'aborder les choses avec beaucoup de pragmatisme. Et un vrai désir de communion, beaucoup plus que de ranimer des guerres. Je l'ai entendu dans mon groupe, d'évêques qui sont, alors a priori, pas du tout branchés, forme extraordinaire, comme on disait du temps de Benoît XVI, ou Vetus Ordo, comme on disait du temps du pape François, mais qui voient des communautés où il y a des jeunes, où il y a des familles, de plus en plus qui ne sont pas forcément des militants, même si des salafistes, il y en a partout, hein, à gauche comme à droite, ça on peut pas, l'éviter, hein, y compris dans l'Église et dans ces milieux-là aussi. Mais ils voient des gens qui ne sont pas forcément tombés dans la marmite quand ils étaient petits, qui adhèrent à cette forme un peu par hasard ou par providence, je ne sais pas, par rencontre, et qui s'y trouvent bien. Hein. J'ai rencontré 3 jeunes couples hier, dont une que j'ai baptisée. Lui, il a demandé son admission à l'Église catholique alors qu'il vient du protestantisme, qui a été très bien accueilli ici par l'abbé Guillaume d'Aigremont comme curé de paroisse. Un autre couple qui prépare les baptêmes sur la paroisse et qui se retrouve en famille à la messe en forme extraordinaire, alors qu'ils n'avaient aucune idée de ça au départ, et qui fréquentent aussi la messe de Saint-André. Mmh. Mais ils trouvent qu'il y a une communauté, qu'ils se sentent bien accueillis, qu'ils voient qu'il y a des gens qui viennent, qui ne sont pas forcément catholiques, et qui se raccrochent à l'Église, et ils deviennent même missionnaires vis-à-vis de ces gens-là. Qu'est-ce que je dis ? Et les évêques disent la même chose.
Oui. Il y a quand même des diocèses où ça ne s'est pas très bien passé, je crois à Dijon, où la fraternité Saint-Pierre a dû partir.
Oui, mais ils ont fait venir le Christ-Roi à la place.
Oui.
Donc c'est le problème plus de personnes.
Vous trouvez que c'est quand même apaisé en France, en tout cas ?
D'une manière générale, je crois. Je crois. Quand D'accord. vous entendez l'évêque de Versailles, Mgr Luc Crépy, alors je sais bien que là, il a 10% de ses fidèles qui sont dans le Vetus Ordo, mais quand on voit la manière dont il aborde les choses, avec beaucoup de pasteurs... Vous voyez, j'ai été très frappé, un évêque que je ne nommerai pas, au cours de la visite à Limina, où j'étais pas moi, parce qu'on a été en 3 groupes, comme vous savez, donc eux, ils étaient plutôt en début 2022, ou fin 2021, je ne sais plus, enfin qu'importe, et il a dit à l'évêque, au pape, et lui, il n'est pas fort mais extraordinaire, il a dit, j'ai pas beaucoup aimé votre motu proprio, moi, je suis resté à votre attitude dans Amoris Laetitia, qui est d'accueillir, d'accompagner, de discerner et d'intégrer. Alors, il y a un évêque à côté qui m'a dit, j'ai cru que le pape allait lui arracher sa croix pectorale, mais non, le pape lui a dit, eh bien, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Et le message que le pape nous a adressé au début de l'assemblée plénière par l'intermédiaire du cardinal Parolin, c'était, beaucoup de familles et de fidèles ont été blessés par le motu proprio tradis custodes, eh bien, le pape vous encourage à être dans l'écoute paternelle et de prendre le temps, quand il s'agit de brebis blessées, il faut les accompagner paternellement. Donc je pense qu'on est plutôt dans cette optique et qu'on n'est pas... je pense qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui ? On dit, on les accompagne, on est un peu plus présent, on essaie de dialoguer avec eux davantage sur les points qui fâchent, on essaie de leur faire rendre davantage compte de leur motivation ecclésiale à partir des livres qu'ils utilisent, en discutant avec eux, ce que préconise un centre d'évêques. Moi, je pense que dans ces conditions, comme dit souvent le pape François, le temps est supérieur à l'espace. Donc, mettons en place des processus de croissance, ne bloquons pas les possibilités d'avancer, de faire évoluer les choses. Moi, je le crois. Dans la mesure
mais prenons le temps, alors.
Un climat de confiance qui s'établit, je pense qu'on peut faire avancer les choses dans le bon sens.
Alors, un deuxième sujet qui a été abordé à l'Assemblée plénière, c'était la restructuration de la Conférence des évêques de France. En deux mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette restructuration ?
Alors, c'est une vieille idée que de réformer un peu la Conférence évêque de France. Alors, qu'est-ce qui est la première motivation ? La première motivation, c'est qu'on se rend compte que la Conférence évêque de France, c'est un ensemble de services, de structures, qui sont censées aider les évêques diocésains et le peuple de Dieu en général, dans la mise en œuvre de la mission de l'Église. Dans un diocèse très pauvre, par exemple, pour donner un petit exemple qui nous fera comprendre à quoi ça sert, qui a beaucoup de personnel sur le plan de la catéchèse, qui manque de moyens, eh bien, il y a un service national de la catéchèse du catéchuménat qui est censé l'aider. Selon le principe de subsidiarité, on demandera à plus élevé ce qu'on n'est pas capable d'assumer soi-même. Bon. Il y a des services qui sont toujours nécessaires, on va dire institutionnels ou structurels, c'est-à-dire l'interlocution publique, c'est-à-dire la représentation de l'Église face à l'État, c'est pas le petit diocèse, le petit évêque de Bayonne qui va suffire à ça. Il faut qu'il y ait une structure, qu'il y ait un service juridique, qu'il y ait un service de veille de la laïcité, etc., qui permette à la Conférence évêque de France, en sa présidence ou à telle commission, de représenter les évêques auprès des puissances publiques, des pouvoirs publics.
Donc ça, on n'y touche pas trop.
Ça, on n'y touchera pas. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on avance, on manque de personnel qualifié. On manque de prêtres, comme aumôniers de tel ou tel mouvement, ou de telle ou telle association de fidèles. Faire fonctionner les services centraux qui se trouvent à Paris, à la Maison des évêques, on a acquise il y a 20 ans maintenant, je pense, qui est la Maison de Breteuil, pour rassembler un peu tous les services administratifs et pastoraux de l'Église de France. Bon. On manque de moyens aussi, financiers. Donc on se dit, on ne pourra pas faire vivre une institution qui coûte très cher, mais qui coûte très cher au diocèse. Parce qu'il faut bien se dire que Breteuil fonctionne grâce aux cotisations des diocèses. Nous levons, entre guillemets, un impôt aux paroisses pour faire fonctionner les services diocésains qui sont au service de tout le diocèse. La Conférence évêque de France lève une contribution également, une sorte d'impôt, au diocèse. Je crois que nous donnons à peu près 100 000 euros par an, autant qu'à la radio, à Breteuil pour faire fonctionner les services.
Donc en gros, c'est une réduction,
une réduction de moyens, mais aussi une réflexion en profondeur pour savoir de quoi nous avons besoin et quel est aujourd'hui, quels sont les signes des temps qui nous font dire que la mission de l'Église, quel est son cœur de cible. Et ça nous permet de réorienter aussi toute notre activité, peut-être aussi tous nos services, et forcément un peu de réduire la voilure, en fonction de la mission d'annoncer l'Évangile à ceux qui sont loin. Bon. La deuxième chose qui me semble intéressante, c'est qu'on essaie de faire comprendre aussi que les services de la Conférence des évêques de France sont une expression de la collégialité des évêques et de la synodalité des diocèses. Mais où se vit cette collégialité au départ ? Pas d'abord à 110, qui nous retrouvons deux fois par an, 6 jours en novembre et 3 jours et demi en mars ou avril, mais d'abord au niveau des provinces. Donc on s'est dit, tout ce qui peut se faire en province n'a pas besoin de se faire à Paris. Donc il y a une dynamique en train de s'établir, et c'est pourquoi dans cette restructuration, nous sommes accompagnés par une agence de coaching, on va dire, qui s'appelle Nexus, et qui nous aide bien, et qui a commencé par nous faire travailler en province, avec les délégués diocésains de chacune de nos provinces, et des invités que nous avions aussi amenés avec nous, pour travailler à des synergies entre les diocèses, au niveau de la province, autour du cœur de cible de notre mission, qui est l'annonce de l'Évangile. Voyez. Et donc, il y a plusieurs scénarios. Moi, je fais partie, quelques évêques ont accepté de travailler un peu plus, comme si on n'avait rien à faire. Donc, moi, j'ai fait partie d'une petite commission, d'un petit groupe de travail, qui était chargé de réfléchir sur les services et l'évolution des services. Il y avait un autre groupe de travail qui était chargé de travailler sur les instances, la présidence, le conseil permanent, etc. Et nous avons présenté, après avoir rassemblé les contributions de ces deux groupes, et aussi de ce qui s'était passé dans les provinces, dans les ateliers synergie des diocèses des provinces, eh bien, ils ont présenté des scénarios de transformation. Et on a eu toute une matinée de travail, plusieurs temps de travail, mais en particulier une matinée, pour chaque scénario, travailler dessus, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau, qu'est-ce que nous retenions, qu'est-ce que nous pensions qui était trop. Donc ce qui fait qu'on a retravaillé tous ces scénarios. On a posé 4 scénarios. Et moi, je fais partie encore de ce groupe qui va fusionner instances et services. Donc, on a une réunion de travail le 27 novembre ou le 28, je ne sais plus, à Paris, où on va retravailler sur ces scénarios pour présenter à nouveau quelque chose avant la prochaine assemblée plénière et puis se déterminer sur un scénario d'organisation de la CEF qui va forcément nous conduire à de vraies réformes.
Dernier sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec vous, Monseigneur Haillet, c'est la fin de vie, sujet que vous avez abordé à l'Assemblée plénière, avec cette lettre des évêques intitulée « Ô mort, où est ta victoire ?» donc pour alerter sur la fin de vie.
Alors j'ai peur que ce sujet qui est pourtant si important et qui est un grand défi par rapport à la société française, hein, soit passé un petit peu inaperçu au cours de cette assemblée plénière du fait de l'actualité des scandales, de la crise des abus sexuels au sein de l'Église. On a très peu travaillé dessus. Hein. On avait une lettre qui nous a été proposée par la présidence, qu'on a reçue en amont de l'assemblée plénière, sur laquelle on pouvait poser quelques amendements. Moi, je l'ai lu, malheureusement, avant l'Assemblée, plutôt en diagonale, même si c'est, comme vous savez, une question qui m'est particulièrement, qui m'intéresse particulièrement. J'ai trouvé que cette lettre était belle, un peu longue sans doute, mais justement, elle est appelée à être travaillée dans les groupes de paroisse et autres, avec les curés. Donc j'en ferai un petit peu de...
Il y aura d'autres communications,
voilà,
peut-être sur cette lettre.
Un petit peu de communication dessus. Je crois que ce qui est bien, c'est que ça a resitué notre combat pour la fin de vie, c'est-à-dire pour la vie, en particulier à la fin, pour éviter justement le suicide assisté et l'euthanasie active dont on sait la position de l'Église. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir ce que l'on en pense. Bien resitué non seulement dans le contexte anthropologique, actuel et qui mérite bien des discussions au plan médical, au plan philosophique, mais aussi resitué dans le message de l'Église, hein, sur la mort, parce que finalement c'est la grande question de la mort, hein, cette peur de la mort qui est d'autant plus prégnante dans notre société que nous n'avons plus d'espérance et que nous sommes dans un tel matérialisme ambiant qu'on a l'impression qu'on occulte cette réalité de la mort parce qu'on n'a plus l'espérance dans la vie éternelle. Donc on a forcément un message, hein, et un message très important, surtout que la mort est assumée par le Christ dans les conditions que nous savons et en vue de sauver l'humanité, hein, et de lui ouvrir les portes de la vie éternelle. Donc c'est une très belle lettre, me semble-t-il, parce qu'elle est... Alors pour le coup, je trouve qu'elle est bien resituée dans notre message évangélique et j'espère bien qu'on pourra la travailler au sein du diocèse.
Donc aux morts, où est ta victoire ? Donc voilà. Lettre des évêques de France sur la fin de vie. Merci beaucoup Monseigneur Haillet.
Radio Lapourdi.
Monseigneur Haillet, nous vous retrouvons pour cette dernière partie de notre émission retransmise sur Radio Lapourdi et Radio Présence avec des éléments de vie diocésaine et récemment cet article qui est paru dans la presse où il vous a été reproché d'accompagner un groupe spirituel qui s'appelle l'Alliance des Cœurs Unis, dont l'association est domiciliée dans les Pyrénées-Atlantiques, et qui ferait l'objet de doutes quant à une éventuelle dérive sectaire. Alors qu'est-ce que vous répondez à ces reproches ?
Alors l'article de la Croix ne me reprochait rien.
Il parlait de dérive sectaire.
Pour ceux qui ont bien lu l'article, reprocher en effet directement à ce groupe d'emprise spirituelle et de dérive sectaire, à partir de témoignages qui n'ont pas été corroborés, c'est pas une vieille histoire, mais j'avais déjà été alerté par des personnes extérieures à ce mouvement de prière qui est l'Alliance des Cœurs Unis, qui n'a pas de monde secret parce qu'ils font tous les ans une récollection ici à la cathédrale de manière parfaitement publique et non pas dans les catacombes comme on pourrait penser quand on lit l'article, que j'accompagne pastoralement sans préjugés, comme je l'ai dit et comme je l'ai répété au sein de l'Alliance depuis toujours et dans un communiqué que j'ai fait évidemment pour rétablir auprès des fidèles qui étaient alertés par cette question, dont je ne préjuge pas de l'authenticité surnaturelle, mais moi j'accompagne un groupe qui prie, qui entend des messages mais pour être davantage chrétien, et vivre davantage l'Évangile, donc il vaut mieux accompagner pastoralement, comme on se le disait avec Mgr de Moulin-Beaufort à la fin de la conférence avec de France en marge de cette assemblée plénière, tous les deux, il vaut mieux accompagner ces gens-là pour prévenir justement les déviances. C'est parti de sources qui n'ont rien à voir avec l'Alliance au départ, je ne peux pas expliquer tout ça parce que ce serait un peu trop compliqué, qui m'ont alerté, mais sans jamais me donner de témoignage direct, et je n'ai jamais entendu aucun témoin direct de dérive sectaire et d'emprise spirituelle, ce que j'ai demandé, chaque fois qu'on m'a alerté là-dessus, c'est trois personnes seulement, qu'à l'origine je ne connais pas d'ailleurs, mais qui m'ont jamais présenté de témoignage direct. Ils ont saisi la cellule de la Conférence des évêques de France, dirigée par Mgr Brunin, évêque du Havre, qui s'appelle « Dérive sectaire et emprise spirituelle », les mêmes sources que moi, pas plus, pas moins. Ils n'ont pas reçu de témoignage direct, et donc Mgr Brunin m'a dit, pour moi, ce dossier est clos, à toi de te débrouiller. Mais comme cet article, qui mélange beaucoup de choses et qui fait des amalgames qui sont quand même assez diffamants, l'association elle-même a demandé à la Croix un droit de réponse, je ne sais pas s'ils l'obtiendront, mais ils ont saisi des avocats pour ça, parce que pour rétablir des vérités qui ont été occultées ou déformées, ça ne me regarde pas, moi. Mais en tant qu'évêque accompagnant, qui suis quand même nommé, mais sans qu'on me le reproche, j'ai décidé, à partir du moment où on a mis des soupçons d'emprise spirituelle sur la place publique, de diligenter une enquête externe, par un observateur externe. Donc j'ai demandé au prieur provincial des Dominicains s'il voulait bien m'indiquer un Dominicain qui pourrait faire cette enquête. Nous sommes en train d'aboutir. Je devrais rencontrer bientôt le visiteur. Ce n'est pas une enquête, c'est une visite, justement pour vérifier tout ça. Et moi, je le trouve... Et d'ailleurs, l'association me l'a demandé en disant « Demandez à quelqu'un d'extérieur qui puisse venir vérifier tout ça. » Pourquoi j'ai réagi par un communiqué ? Parce que un journaliste bien connu de nos services, ici, qui est à Bayonne depuis longtemps, d'ailleurs, je crois qu'il doit bien se plaire à Bayonne pour rester dans cette agence de Bayonne, de Sud-Ouest, mais a cru bon de se faire l'écho, alors en m'attaquant davantage, parce que là, je suis manifestement la cible, mais c'est pas très grave, je suis habitué, se faire le relais de ces articles de la Croix, en ajoutant des choses qui manquent de professionnalisme, parce qu'il est allé regarder des statuts qui sont les anciens statuts, où la première boîte aux lettres était Asparin, mais elle n'est plus du tout à Asparin, mais ça a beaucoup d'importance. Vous savez, quand vous déposez des statuts, si vous êtes dans un département, vous donnez l'adresse qui est la vôtre. Bon, il se trouve que la présidente n'est plus la même et que
plus domiciliée ici.
Si elle est domiciliée encore dans le département, mais pas à Asparin. Mais ça n'a aucune importance, ça. C'est complètement anecdotique. Qui a interrogé quelqu'un en croyant que c'était la présidente, mais c'est pas la présidente. Bon. Et qui n'a même pas essayé de vérifier si moi il a essayé de m'interroger, mais très peu. Il avait déjà écrit son article. Alors heureusement, la Croix a quand même, dans un numéro suivant, fait part du communiqué que j'avais fait. Bon, donc ça a rétabli un tout petit peu où je me situe par rapport à tout ça. Mais voilà, bon, Moi, je m'en fais pas trop. Vous savez, je vous renvoie au numéro 67 du catéchisme de l'Église catholique, qui nous donne des critères de discernement concernant ce qu'on appelle les messages ou les apparitions ou les révélations privées. Une révélation privée, évidemment, ne peut rien ajouter ni rien affirmer à la révélation publique qui s'arrête à la mort du dernier apôtre. Donc c'est l'Écriture sainte, la Bible, commenté par le magistère authentique de l'Église, mais le Seigneur peut se servir, je ne dis pas qu'il s'en sert là, pour aider à mieux vivre l'Évangile à notre époque. Si ça aide des gens à mieux vivre l'Évangile, et si ça les centre mieux sur le Christ et sur la vie chrétienne authentique, que ce soit révélé ou que ce soit pas révélé, je trouve que c'est une bonne chose. Après, si au contraire ça conduit à des déviations, ben, à l'Église, et en l'occurrence là c'est moi... qui les accompagne pastoralement, ben de vérifier et puis de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive ni de déviation.
Alors, vendredi 11 novembre, vous avez consacré à la cathédrale de Bayonne une nouvelle vierge consacrée, Chantal Dauny, qui est, je crois, de la paroisse Saint-Pierre de l'Océan. Quel va être son rôle dans le diocèse, une vierge consacrée il y en a quelques-unes, je crois, déjà dans notre diocèse.
Alors, le rôle fondamental d'une vierge consacrée, qui est, c'est intéressant de le signaler, comme je l'ai dit le jour de sa consécration, c'est la forme la plus ancienne de vie consacrée dans l'Église. Vous savez que la vie consacrée n'est pas née tout de suite avec Saint Benoît au 5e siècle, même Saint Basile précédemment en Orient. La vie consacrée, c'est la vie du baptême, tout simplement. Et certains ont voulu vivre une vie plus radicalement enracinée dans la foi du baptême à travers les trois conseils évangéliques, hein, de pauvreté, obéissance et chasteté parfaite. On peut dire que la vocation à la virginité consacrée est née avec l'Église. Et d'ailleurs, dans l'histoire de l'Église, une vierge consacrée, elle assume, la fonction d'être comme le signe et la figure de l'Église, épouse du Christ. Et c'est pourquoi elle remet, elle fait sa consécration à la virginité perpétuelle, ni à l'obéissance, ni à la pauvreté parfaite, parce qu'elle reste dans le monde.
Elle n'est pas dans une communauté.
Elle n'est pas dans une communauté, elle ne suit pas une règle. Tout ça est venu beaucoup après. Comme vous savez, les premiers saints, c'est les martyrs. Et après l'époque des martyrs, on a voulu prolonger la consécration totale de soi-même, qui a été l'imitation du Christ sur la croix dans le martyr, après les persécutions romaines, à travers une vie consacrée, à travers les trois vœux. Donc des règles, Saint Benoît qui va organiser de manière magnifique la vie consacrée, contemplative, cénobitique, c'est-à-dire communautaire, au 5e siècle, qu'on appelle le patriarche des moines d'Occident. Bon. Et donc c'est vrai qu'avec l'organisation de la vie religieuse, la virginité consacrée est tombée un peu en désuétude. Et c'est le Concile Vatican II qui l'a remise à l'honneur. Pourquoi ? Parce qu'au Concile, l'Église s'est beaucoup intéressée à la place de l'Église dans le monde, au témoignage de l'Église dans le monde. Et donc, comme la Vierge consacrée est la figure de l'Église, épouse du Christ, dans le monde... Ça reprenait, elle retrouvait un peu ses lettres de noblesse. Moi, j'étais très heureux de pouvoir recevoir la consécration de cette Chantal Dauny, qui est en fait une ancienne bénédictine, qui pour des raisons XY est obligée de quitter son monastère du Bec-et-Loing, d'abord pour s'occuper de ses vieux parents malades et âgés, et finalement est restée dans le monde, mais a toujours été fidèle à sa première consécration, et s'est dit dans le monde, je pourrais continuer de manière reconnue par l'Église. Alors après, chacun par son charisme et sa situation, à la mission qu'elle désire. Elle a déjà une mission dans la paroisse de Saint-Pierre de l'Océan. En plus, elle anime un atelier d'iconographie, parce qu'elle écrit des icônes, et elle apprend à d'autres à écrire des icônes, donc elle a déjà sa mission.
Alors dans notre diocèse, il est important aussi de parler des jeunes. Et justement, j'ai à mes côtés un stagiaire, Florian, qui va vous poser deux questions concernant les jeunes.
Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Les 19 et 20 novembre auront lieu les journées diocésaines de la jeunesse à Orthès, en préparation aux journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne qui auront lieu en 2023. Et à cette occasion, quel message voulez-vous faire passer aux jeunes sur leur rôle à jouer dans l'Église et dans leur engagement ?
Alors, c'est beaucoup, c'est très, C'est difficile de répondre à cette question. Moi, j'ai toujours, depuis le début de mon ministère épiscopal, misé beaucoup sur les jeunes, parce que je pense que les jeunes sont à la fois le présent et l'avenir de l'Église. Et donc, il me plaît de les accompagner dans leur engagement dans l'Église. Et je suis toujours émerveillé de voir qu'il y ait des groupes de jeunes étudiants, jeunes professionnels, lycéens, en lien avec leurs aumôniers, leurs animateurs, qui essaient de vivre à cette étape de leur vie, dans un monde qui n'est quand même pas très facile, qui en plus pourrait les éloigner beaucoup de l'Église et du message de l'Évangile, eh bien, s'engage dans la foi, désire essayer de vivre de manière crédible et cohérente le message de l'Évangile qu'ils aspirent à connaître toujours davantage, d'où leur participation à tous ces groupes. Alors, le message que j'ai envie de leur dire, ce sera le message des JMJ. Hein. Le thème des JDJ, vous allez d'ailleurs me le rappeler, qui est le thème des JMJ, qui auront lieu en 2023, donc, comme on le sait, autour du pape François à Lisbonne. C'est tiré de l'évangile de la Visitation. Hein. C'est Marie qui se leva et partit en hâte pour rejoindre sa cousine Élisabeth, parce qu'elle apprend que Élisabeth, sa cousine, elle que l'on appelle la femme stérile, et qui est avancée en âge, est enceinte de Jean-Baptiste, qui est le précurseur du Christ. Et Marie, en hâte, se leva rapidement et s'en alla en hâte vers Ein Karim, vers les montagnes de Judée. Voilà. Donc je pense que le message que j'ai à donner aux jeunes, c'est d'être très attentif aux appels du Seigneur. Le Seigneur nous appelle tous d'une manière très particulière. Il nous adresse, il a un projet pour chacun d'entre nous. Et c'est au moment de la jeunesse, très particulièrement, qu'on doit être attentif à ce projet de Dieu qui passe généralement par sa parole. Parce que là où le Seigneur nous parle, c'est dans la parole. Donc j'invite les jeunes à être très attentifs à écouter la parole de Dieu et à discerner les appels que le Seigneur leur lance à travers sa parole dans le monde d'aujourd'hui, pour être des témoins de l'Évangile, comme Marie, au jour de la Visitation, va être témoin de cette joie de sa rencontre avec le Christ qu'elle porte en elle et qu'elle a envie de porter au monde. Et c'est dans ce mouvement-là que j'invite les jeunes à se placer et certainement non seulement à participer au JDJ, pour se préparer au JMJ, mais à venir en nombre aux Journées mondiales de la jeunesse pour imiter Marie. Je me lève et en hâte, je vais essayer de répondre à cet appel que le Seigneur me lance, et puis je veux être un témoin de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui qui en a tant besoin.
Et de quelle manière pensez-vous que ces journées diocésaines peuvent-elles aussi jouer un rôle dans la mission d'évangélisation de l'Église ?
Voilà, alors c'est ça, c'est toujours le grand défi, c'est ça. Il ne faut surtout pas que nos JDJ comme nos JMJ soient seulement des journées où l'on cultive l'entre-soi. Comme le faisait remarquer le directeur du service national, parce que moi je suis dans le conseil épiscopal pour la pastorale des enfants et des jeunes, et donc on parle beaucoup des JMJ, évidemment, au niveau national, et il disait, il faut se rappeler que les JMJ sont pas les journées mondiales des jeunes chrétiens ou des jeunes catholiques, mais la journée mondiale des jeunes. Donc il faut évidemment que les jeunes chrétiens et catholiques, qui par définition se sentiront plus concernés par cette rencontre internationale autour du pape avec le Christ et avec l'Église universelle, eh bien, se sentent concernés aussi pour attirer des jeunes qui ne sont pas spécialement chrétiens, mais qui ne connaissent pas, mais ont soif. Alors après, il faudra une pédagogie pour que la journée soit organisée de telle sorte que ce ne soit pas un repoussoir pour ces jeunes.
Un dernier mot, Monseigneur Hayet, sur les vocations, justement, puisque vous en parlez. Cette année, on va prier pour les vocations. C'est une initiative provinciale au niveau de la province, donc de plusieurs diocèses. Vous nous donnez rendez-vous donc le 29 avril, je crois, pour une grande journée familiale. Et il y aura aussi un pèlerinage autour de cette journée.
Voilà, donc c'est une petite journée de pèlerinage et de rencontre qui est dirigée vers les familles au niveau de toute la province, qui aura lieu à Bazas, je crois, et qui est organisé par les services diocésains des vocations et de pastorale familiale.
J'imagine
et
que
puis
vous
nous allons
ça.
Organiser au niveau du diocèse, avec la pastorale des jeunes et des vocations, un grand pèlerinage qui aura lieu à partir du mois d'avril, après Pâques, jusqu'avant la Pentecôte, où on va porter à travers le diocèse une statue de la Vierge Marie, de Bétharram, je crois, Notre-Dame de Bétharram, et les paroisses sont invitées à accueillir ce pèlerinage et puis à marcher un peu avec eux pendant quelques kilomètres, hein, de manière à ce que tout le diocèse, à travers ce pèlerinage, se mette vraiment en prière pour les vocations.
On en reparlera bien sûr, mais donc à noter déjà ces dates du 29 avril et puis autour du 29 avril pour prier pour les vocations. Merci beaucoup Monseigneur Hayet.
Voilà, merci à vous.
Merci à Florian pour ces questions. Merci, et merci à tous nos auditeurs de Radio La Pourdie et Radio Présence. Je rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site du diocèse www.diocèse64 ou sur les sites de Radio Présence et de Radio La Pourdie. À très bientôt.
Merci.